Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Et oui, nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Roselyne Bachelot, ouais, Stevie Boulet, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Laurent Baffy et Franck Ferrand. Oh, je vais peut-être rechercher une petite question historique, hein,
quand même. Oh, oui. Oh, non, il y en a que lui, il y en a que Ferrand, il n'en a pas, là.
Oui, mais il parle au moins, c'est beau, on écoute, on apprend.
Oh, arrête, bon, arrête de lécher, là.
Hein. Ben, non, mais bon.
Elle a raison, lèche-le tranquille.
Je vais vous parler d'un député qui s'appelait Louis Legendre, parlementaire sous la Révolution, homme politique révolutionnaire. Louis Legendre, il est mort en 1797, et Louis Legendre, au moment de la condamnation de Louis XVI, avait proposé quelque chose d'assez étonnant, puisque, outre le fait que le roi soit décapité, il était allé plus loin. Qu'avait proposé ce conventionnel Louis Legendre ?
Lui couper les couilles.
Lui couper les couilles. Alors,
l'écarter les mains.
Je vais aller plus loin, je vais vous aider. Il avait carrément décidé et proposé qu'on découpe le corps de Louis XVI en 83 morceaux.
Oh là,
un par département.
Pardon ?
Un par département.
Un par département. Bonne réponse de Franck Ferrand. Il y avait 83 départements à l'époque.
Eh oui, on venait juste de les créer.
Eh oui.
Alors, celui qui habite dans l'Aisne, il sait quel morceau il va avoir. Et celui qui habite dans la Creuse, il a trop de balles.
Le gendre voulait que les morceaux du roi servent de fumier dans les différents départements du pays. Voilà. Et il aurait dit à l'époque, l'arbre de la liberté ne rapportera jamais de fruits si le tronc du tyran n'en fume les racines.
Vous
rendez compte un peu.
Il a été guillotiné.
C'était dommage d'avoir oublié son nom, celui-là.
Louis Legendre. Bah,
c'est le grand à l'arrière. Ah non, c'est le grand de Legendre, le patron des députés La République En Marche.
Pardon. Oh, il est bien, lui. Il a l'air détendu.
Oui, c'est tout à fait. Oui.
C'est quand même lui qui avait dit, si je me souviens bien, on ne peut pas comprendre nos réformes car elles sont trop intelligentes.
Ils n'ont pas été gentils avec Louis XVI, quand même, Monsieur Ferrand.
Fallait trancher.
Il n'était pas coupable.
Moi, ce que je retiens de la mort de Louis XVI, c'est essentiellement qu'il a fait son dernier voyage à côté d'un maire de Paris qui s'appelait Nicolas Chambon.
Ah, bah non. Ah, depuis que je vous ai piégé avec cette question, ça vous obsède.
Ça me réveille la nuit.
Oui. J'ai une autre question, si vous voulez, sur la Révolution.
Pas encore pour Ferrand. Non.
Bah, qu'est-ce qu'il y a, Roselyne ? Le patron n'a pas le droit d'avoir une sexualité ?
Alors là, vraiment, c'est totalement platonique entre monsieur Ferrand.
Vous allez rentrer dans l'histoire, vous inquiétez.
Il y a dans platonique, il y a Nick. Hein.
Vous n'avez pas une question con pour moi ?
Si, Bernard, tiens. Ah.
Je savais qu'il y en avait une.
Une maville.
Ça a duré, nous dit-on, 52 minutes. Ça s'est passé hier.
Ah, bah c'est hier soir, oui, je vois ce que c'est.
Allez-y.
C'est mon dernier coït.
Et il s'agit évidemment de quelqu'un qui a passé 52 minutes en soutien aux grévistes à propos de la réforme des retraites. Qu'est-ce qui a duré 52 minutes ?
C'est Martinez, non ?
Non, qu'est-ce qui a duré 52 minutes ?
Un meeting ?
Un meeting, non.
Un discours.
Qu'est-ce qui a duré 5... Non, un discours, non. Ça a commencé à 10h30 hier matin.
Ah, une érection de Martinez.
Non, ça a duré 52 minutes... Et c'était en soutien aux grévistes. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, qui dit « J'ai 57 ans, je ne suis pas loin de la retraite. »
Est-ce que c'est un artiste ?
Alors, un artiste à sa façon, oui.
Un peintre ?
Oh, il est partout en photo dans les journaux aujourd'hui.
Un équilibriste.
Ah, on se rapproche.
Ah, c'est le mec qui a grimpé sur la tour.
Alain Robert, qui a escaladé la tour totale en soutien aux grévistes. Effectivement, 187 mètres en 52 minutes. Bonne réponse de Bernard Mabille.
C'est bien une question con.
En tout cas, on se nomme Spider-Man, Alain Robert, et il a escaladé la tour totale en soutien aux grévistes.
Il y a deux ans, il a fait Roselyne Bachelot par la face nord.
Franchement, non, mais c'est formidable de grimper encore à cet âge-là.
C'est jeune, 57 ans.
À quoi ça sert de monter là-haut ? Faut redescendre après.
Il redescend par l'intérieur ou il redescend par l'extérieur ?
Bah, généralement, il a un comité d'accueil en haut. Il y a la police qui l'attend, la sécurité de l'immeuble, tu vois.
Ah, t'es aussi un spécialiste.
Un coup de matraque et il redescend tout de suite.
J'ai vu les images. À chaque fois qu'il arrive en haut, le pauvre, il se fait arrêter.
C'était en tout cas une bonne réponse con pour une question con. Merci Bernard Mabille.
6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL.
Florian Lecointre va jouer maintenant. Jouer pour partir à la neige. Je ne sais pas si vous saviez que ce sont évidemment quelques jours passés dans un hôtel 4 étoiles que je vous propose. Florian, bonjour.
Bonjour, bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Le Snowshoe Landspaw, il y a une dame à côté de vous, je l'entends déjà quasiment, je l'entends faire des bruits.
Oui, c'est ça, oui. Elle est contente.
C'est votre femme, Mme Lecointre, alors ?
Oui.
C'est le nom de ma concierge au Havre, Mme Lecointre.
Vous avez aussi une propriété au Havre ?
Mais non, justement, c'était quand j'étais en HLM, Mme Lecointre, il fallait aller payer. À l'époque, on allait payer le loyer chez la concierge. Il fallait aller dans l'immeuble d'en face, c'était Mme Lecointre au rez-de-chaussée.
Oh, dis donc.
J'allais payer le loyer, puis quand les parents avaient 2-3 jours de retard, on se cachait quand on voyait Mme Lecointre.
Quand la mère avait 2-3 jours de retard, il y avait un petit frère.
C'est pour ça qu'on a été 5.
Et depuis, vous avez racheté tout le bâtiment. Alors.
Comment elle s'appelle, Mme Lecointre, alors, Florian ?
Pauline.
Pauline ! Alors, on embrasse Pauline. Elle va vous aider, j'imagine.
Bah, j'espère bien, mais bon.
Eh bien oui, pour partir dans ce magnifique hôtel 4 étoiles à Risoul. Très belle station d'altitude, c'est normal hein, pour la montagne. Au cœur de Risoul, un lounge bar chaleureux, un sauna avec une salle de gym, des salons de massage, des soins de relaxation. Vous pourrez évidemment profiter de tout ça. Allez voir sur le site internet de l'hôtel, hotelsnowshill.com. Attention Florian, voici 6 affirmations. Il y a 5 fake news. Une seule grosse tête vous donne une véritable information. On commence par Laurent Baffy.
En réaction à la grève qui dure à la RATP, un collectif de femmes appelle à ne plus aller chez l'esthéticienne pour faire la grève du ticket de métro.
C'est possible.
Est-ce utile que les autres lisent leurs conneries ? Je ne sais pas.
Franck Ferrand, maintenant.
À la suite de la décision de Meghan et d'Harry de prendre le large, les musées Tussauds de Londres et de New York ont retiré leur statue de cire de la collection Famille Royale.
Roselyne Bachelot.
Alors, non. Moi, je suis une spécialiste de l'opéra et vous connaissez peut-être l'opéra de Quatre Sous de Bertolt Brecht, mais on ne le dit pas sur mon papier, la musique est de Kurt Weill. Elle n'est pas de Bertolt Brecht, évidemment. Il ne composait pas de musique. Opéra de Quatre Sous, la complainte de Mackie, vous connaissez.
Oui.
Et donc, on en fait une version moderne. Vous savez, souvent dans les opéras qui sont un peu poussiéreux, eh bien, on fait une version plus moderne et on a décidé de sortir une version qui va s'appeler l'opéra de Saint 5 euros.
D'accord.
L'opéra de 5 euros de Bertolt Brecht.
Ah bah, toujours. Hein.
Toujours.
Bah, l'Allemagne a pris l'euro aussi. Hein.
Stevie Boulet, nous vous écoutons.
Ah bah, Hollywood s'en remet pas. C'est Barack Obama qui sera le maître de cérémonie des Oscars 2020.
Jean-Jacques Perroni, maintenant.
Après janvier, le mois sans alcool, février sera le mois sans viande. Et c'est le footballeur Franck Leboeuf qui est le parrain de cette initiative.
Mais ça, riez pas, c'est peut-être vrai. Tout est possible. Et on termine avec
Il
Bernard.
Il va en faire une génisse.
Bernard Mabille.
Alors, je ne sais pas si elle est vraie, mais si elle est vraie, elle est terrible. En hommage à Michael Schumacher, la station savoyarde de Miribel vient de baptiser une nouvelle piste au nom du pilote.
Ben c'est possible aussi. Bon, il y a du faux, il y a du vrai dans tout ça. À votre avis, alors ? Est-ce que Mme Lecointre vous aide, Florian ?
Oui, j'ai une préférence pour M. Ferrand, là, sur Meghan et Harry.
Mais évidemment.
Meghan et Harry, pensez qu'on a retiré. C'est un peu tôt, quand même, non ?
Bon, ils sont réactifs, on va dire.
Je me tourne vers M. Ferrand.
J'ai l'impression que c'est vrai, mais en tout cas, j'ai vu une photo où on voyait les statues déplacées.
Ça, oui, moi aussi, j'ai vu ça.
Bravo, c'est gagné, vous partez à la neige. Eh ben oui. Oui, la grève du ticket de métro, hélas, ce n'est pas vrai.
L'opéra, je suis tombé dans le panneau, moi.
L'opéra de 5 euros.
L'opéra de 5 euros, ça aurait pu. Hein.
Ouais, bah,
oui, parce qu'on a l'apéro de 5 euros, déjà.
Barack Obama, maître de cérémonie des Oscars cette année.
Ça aurait de la gueule.
Ça, ça, aurait,
très
la,
bien.
Ça aurait eu de la gueule. Hein. Ah, oui, moi, oui. Moi, j'étais pour, hein, ça aurait été possible. Et quant au mois sans viande...
Par Franck Leboeuf, là, non, c'est pas possible.
Eh bien, écoutez, il y a quand même le mois de janvier sans produits d'origine animale qui a été lancé en Angleterre, qui s'appelle le Veganuary et qui s'ajoute au Dry January. C'est-à-dire que c'est le même mois en Angleterre qui font mois sans alcool, mois sans viande et mois sans Harry Meghan. Et Meghan.
Voilà.
Ça fait beaucoup. En tout cas, vous partez à la neige. Bravo. Une question pour Claude Louviot, qui habite au Loing-sur-Viron en Belgique. Et la presse nous dit que Stéphanie Frappard, la dernière fois, a fait quand même 16 100 km. Pour quelle raison a-t-on calculé le nombre de kilomètres qu'a fait Stéphanie Frappard ?
Pour aller bosser, il y a la grève.
Alors, c'est pas pour aller travailler, mais c'est vrai qu'elle travaillait, en revanche, quand elle a fait...
Ah ben, elle faisait le trottoir.
Non.
C'est une discipline sportive reconnue ?
Oui, c'est une discipline sportive reconnue, mais elle, elle n'est pas spécialement une sportive.
C'est la marche, quoi, la discipline sportive reconnue.
Rien à voir avec la marche.
Non. En paddle.
Pardon ?
En paddle. Paddle, ça s'appelle pas le paddle, là.
Paddle.
La planche avec le petit...
Le paddle. Moi, je voudrais bien vous voir là-dessus, vous.
Ah, j'ai du mal à démarrer, mais après, ça va.
Avec un peu de vent, ça va.
Ça doit avoir un petit côté radeau de la méduse, vous voyez.
Paddle, Bernard m'a dit en paddle. Mais quand est-ce que vous avez fait du paddle, la dernière fois?
Je n'ai jamais fait de paddle, mais je me dis, pourquoi pas, cette dame en paddle.
D'ailleurs, elle a plus couru que marché. Enfin, parfois, elle a marché, mais parfois, elle courait aussi.
Elle était poursuivie par un chien?
Non. Non, non.
C'est pas la course des garçons de café.
Je vous ai dit que c'était son métier, Stéphanie Frappard. On a calculé que la dernière fois, elle a fait 16
kilomètres. Ah bah oui, peut-être ça, garçon de café. Non,
non. On la connaît bien, vous la connaissez tous, Stéphanie Frappard, parce qu'elle est rare.
Elle est rare.
Elle est liée à un événement sportif récurrent.
Pas un événement sportif, mais un sport, oui.
Elle anime
au tennis, au tennis.
Et donc à différents événements sportifs.
Ah, c'est un arbitre.
Expliquez.
Arbitre de foot.
Et alors ?
Et alors, elle a fait 16 km durant le match.
Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah, et oui, Stéphanie Frappard.
Voilà.
C'est la première arbitre femme à diriger des rencontres de Ligue 1. Et sur les derniers matchs qu'elle a fait, vous imaginez qu'elle était évidemment très observée.
J'imagine.
Pour l'instant, on ne lui a pas encore donné les gros matchs. Hein, de la... Par exemple,
normal.
Elle n'a pas arbitré PSG-Monaco, vous voyez. Oh. Mais quand même, elle a quand même déjà arbitré des matchs de Ligue 1. Et évidemment, on a calculé combien de kilomètres. On fait ça pour les joueurs, mais on le fait aussi pour l'arbitre, pour savoir si un arbitre bouge suffisamment pendant le match.
Tu vas le bouger ton cul, feignasse, ouais.
Alors, il va falloir adapter les insultes pour les arbitres. Ah bah aux chiottes dame l'arbitre.
Oui.
Eh bien, il paraît, en tout cas, nous dit l'article du Parisien aujourd'hui, signé Romain Baheu, que les joueurs sont bien plus respectueux avec elle. Par exemple, vous voyez, ils ne vont pas venir en s'énervant contre elle. Ils, sont, ouais, ils font un peu plus... Oh, c'est le début. Hein,
après,
on verra dans quelques mois, mais pour l'instant, ils la respectent. Vous voyez,
il paraît qu'on les vestiaires, quand même, ils lui volent son sac à main.
Mais Stéphanie Frappard a eu les compliments des joueurs.
Oh oui,
elle a arbitré, par exemple, Toulouse-Lille, il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, c'est pas mal. Et quand même, alors, là où ils se sont trompés dans le Parisien, c'est que, parce que quand même j'ai vérifié, hein, j'ai essayé de calculer, ils ont dit, elle a lors d'une finale d'un match de mondial fait 16 km pendant les 210 minutes du match. Et alors là, je me suis dit, ça peut pas être possible parce que 210...
Les prolongations font quand même pas...
Ouais, un match, c'est 90 minutes.
Ah, peut-être le temps qu'elle se maquille, oui.
90 plus 30 minutes, c'est les prolongations généralement, ouais. Hein, deux fois
et
un quart d'heure.
Juste ses bas.
Donc 90 plus 30, on va dire que ça fait 120 minutes. Alors, à mon avis,
plus
ils ont
les arrêts de jeu.
La secrétaire de rédaction est dyslexique.
Ils ont dû inverser 210 et 120 minutes.
Ah, oui. Voilà.
Ou alors, c'est qu'elle a continué à courir après le match.
Ce qui poursuivi même... par les joueurs.
Ce qui il paraît qu'à un moment, elle marchait en faisant tournoyer un sac à main. On ne sait pas.
Le titre du Parisien aujourd'hui, c'est « Elle leur a coupé le sifflet ». Voilà, quand même un joli titre.
Ouais, très bon titre.
Stéphanie Frappard, première arbitre.
Ils lui ont bouffé le gazon, ça aurait été bien aussi.
Monsieur Baffi.
On est dans les très bons titres.
Bah oui. Monsieur Baffi.
J'avais la barre transversale.
Elle a quand même une banderole insultante à Angers, vous voyez. Ah, ça c'est chez vous, Roselyne.
Ah bah oui, j'ai honte.
Ah bah oui, vous pouvez avoir honte.
C'est quoi là-bas, le truc insultant?
J'ai pas le contenu. Enfin, Monsieur Baffi pourra vous le fournir hors antenne. Oh, je ne peux pas vous poser, enfin, ne pas vous poser cette question. Là encore, c'est dans le Parisien que j'ai trouvé cet article aujourd'hui.
Je lis pas le Parisien.
Ah, mais c'est notre ami Vincent Mongaillard qui nous sort comme toujours des infos formidables. Oui. Qui est allé interroger cette dame qui s'appelle Annick, qui a 78 ans.
Annick, encore à cet âge-là.
Écoutez, c'est chez vous, là, en Bretagne, dans le Morbihan, précisément.
Ah, très bien. Où ça, dans le Morbihan?
Très exactement, à Saint-Léry, puisque cette dame, Annick, était maire, elle est toujours d'ailleurs maire de Saint-Léry, mais elle ne se représentera pas, elle dit... Place aux jeunes. Mais quelle était la particularité de cette mère de Saint-Léry dans le Morbihan?
C'est une...
78 ans.
C'est la plus vieille
religieuse. Pardon?
C'est une religieuse.
C'est une religieuse.
Ah ouais.
Bonne réponse de Laurent Baffy.
Je la connais parce que j'ai vécu 2 ans avec elle.
Ah, ça m'étonnerait pas parce que ça s'appelle Annick Homo.
Les baisers en un éclair. Donc tout, non, tout mon corps.
Elle cumule quand même. C'est-à-dire qu'elle est religieuse mère et elle s'appelle Annick Homo. H-O-M-O, hein, ça ne s'invente pas. Elle faisait très très bien la différence entre son travail de mère et son travail de... Quand on est religieuse, on n'a pas le droit d'être mère, hein, évidemment. On est...
Et là, elle fait un stage pour devenir arbitre.
Elles sont très rares. C'était, je crois, la seule religieuse ou religieux qui était maire de France jusqu'à présent. On en a eu, évidemment, dans le passé, mais c'est quand même très, très...
Elle
très...
était enceinte. C'est une mère porteuse.
Non, pas du tout.
Elle avait une hygiène impeccable, encore nette.
Non, mais on a eu, par exemple, dans un autre village, pareil, dans les Côtes d'Armor, c'est les Bretons, hein, souvent. On a eu un curé, mais il s'est arrêté en 2014, qui était lui aussi père et mère en même temps. Donc,
il s'appelait Homo, lui aussi.
Non, il s'appelait Élie Geffray. Monsieur,
oui, mais une laine.
Le père Geffray. Eh bien, le père Geffray, il était curé et maire jusqu'en 2014. Là, mais,
il y avait le chanoine Kier.
C'est très vieux.
Oui,
voyez.
Oui, oui.
Donc, il est député, lui.
Ça veut dire que là, après,
et Pierre.
Après elle, après Madame Homo, on n'aura plus de curé maire ou de religieuse maire.
On ne sait pas.
Peut-être. Benoît XVI va peut-être se présenter.
Mais en tout cas, c'est évidemment une belle interview qu'a réalisée Vincent Mongaillard, Madame Homo, la seule religieuse à la tête d'une commune dans le Morbihan. J'ai une autre question et cette fois...
Encore dans le Parisien?
Non, pas du tout. C'est dans Ouest-France.
Je lis pas Ouest-France.
C'est chez nous.
Et ça va vous intéresser, chère Roselyne Bachelot, puisque c'est à Angers, dans le Maine-et-Loire, qu'on va nous présenter à partir de demain jusqu'au 16 janvier, Fred. Mais de quoi s'agit-il? Et on aura au téléphone dans un instant Thierry Ligonnière de la société...
Ah bah Dupont de Ligonnière.
Non, non.
Vous l'avez retrouvé.
Je ne vais pas donner le nom de la société. Mais monsieur Ligonnière va nous présenter Fred. Mais de quoi s'agit-il?
C'est un chimpanzé.
Ce n'est pas
un
chimpanzé.
C'est un animal.
C'est le robot qui est à l'hôpital.
Ah, ce n'est pas le robot qui est à l'hôpital.
C'est plutôt une plante. Une œuvre d'art.
C'est un animal.
Alors, ce n'est pas animal. C'est
une plante.
Alors, c'est plutôt végétal.
Bah oui, c'est la capitale, la capitale du végétal, Angers.
Un baobab.
Le baobab d'Angers.
Est-ce que c'est un arbre?
Ce n'est pas un arbre.
Une plante.
Et monsieur Ligonnière, qui va nous répondre dans un instant, nous dira évidemment qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Fred. Fred.
Les Ligonnières, c'est une famille de pépiniéristes.
Alors.
C'est un croisement.
Ça doit être le croisement d'une plante. Ou
un nouveau fruit.
Pardon?
Un nouveau fruit.
Alors, un nouveau fruit.
Un nouveau kiwi.
Pas un kiwi.
Un quinon.
les nouvelles tomates à la banane.
Pas une tomate. Non, c'est une nouvelle.
Une orange.
Non.
Une fraise.
Non.
Une poire.
Une pomme, oui.
C'est une nouvelle poire, Fred. Bonne réponse de Laurent Baffy. Monsieur Ligonnière, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'elle a, votre nouvelle poire, si j'ose dire?
Ça, c'est fin aussi.
Elle fait des lavements.
C'est déjà une poire qui a une forme de poire, ce qui est déjà pas mal. Hein.
C'est vrai que les poires ressemblent de moins en moins à des poires, vous avez raison.
Voilà. C'est une poire qui est excellente et qui surtout est croquante et qu'on peut manger... En croquant une poire. Aujourd'hui, quand on mange des poires, on attend qu'elles soient prêtes et on ne peut pas les manger pendant beaucoup de temps. Et là, en fait, c'est une poire qu'on pourrait presque mettre dans votre poche et vous pouvez la consommer pendant 2-3 semaines. Elle restera croquante et juteuse, avec des vrais arômes. Et on peut la manger aussi affinée comme les anciennes poires. Donc, elle a toutes ses capacités. Donc, c'est vraiment une superbe poire.
Et comment vous l'avez faite, votre poire ?
Eh bien, on l'a fait par hybridation. On a joué à l'abeille. Donc, on prend les pollens d'une variété et on la met sur une autre. On sélectionne et là, on a trouvé cette poire-là.
Et pourquoi vous l'avez appelée Fred ?
C'est un choix pour avoir un nom qui se rappelle facilement.
Robert, ça se rappelle facilement.
Et directif, nominatif.
Hein. Qu'il soit pouvoir... jeune, Fred, je pense si jeune que ça, non. Fred.
On va pouvoir. La joaillerie n'est pas d'aujourd'hui.
La poire Kevin, à la limite, mais Fred. Ouais.
Vous allez faire de l'alcool de Fred ?
Pourquoi pas, William ?
Bah pourquoi pas ? Ce serait toujours possible.
Vous pouvez passer nous passer le responsable qui a trouvé ce nom de merde.
Mais on le retient très très bien. Et ça,
bah ça oui, on retient bien, mais on ne l'achète pas.
J'aurai un kilo de Fred.
Pourquoi pas Harry, vous voyez, parce qu'il était très jaloux de William, qui avait sa poire. Ça aurait été mieux que Fred. Merci quand même, monsieur Ligonnière. Une question pour Frédéric Damiens, qui habite Montigny, dans le Pas-de-Calais. Et la question concerne le père. On parlait de religieuse et de curé. En voilà un curé qui fait une page dans La Croix aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu le quotidien La Croix.
Tous les jours.
Je ne lis pas La Croix.
Ben, vous avez tort, parce que vous sauriez répondre à ma question à propos du père Alex. Alexandre Denis, c'est son vrai nom. On l'appelle le père Alex. Il a 47 ans. Alors, quelle est la particularité de ce curé, c'est que, évidemment, s'il a une page entière dans le journal La Croix aujourd'hui, c'est que c'est pas un curé comme les autres.
Il est exorciste.
Exorciste, non.
Guérisseur.
Aveugle.
Aveugle, non.
Il magnétiseur.
Non.
Il croit en Dieu.
Oh bon.
Il est français.
Il est français, le père Alexandre Denis, oui.
Et il est parisien.
Alors, écoutez, je sais pas s'il est parisien, mais là, en tout cas, vous pourrez le voir à la Villette.
Il est bouché.
Il chante.
Le 17 janvier prochain et le 13 mars.
Il fait du musical.
Alors, il est sur scène, oui.
Incroyable.
Il joue d'un instrument.
Mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qui est incroyable, monsieur ?
Un curé sur scène, je trouve ça incroyable.
Il y avait le père Duval.
Il est magicien.
Il y a eu Monseigneur Di Falco qui nous a fait chanter.
Il ferait pas un petit numéro avec des enfants savants ?
Il jongle avec des hosties.
Non. Heureusement qu'on n'a pas au téléphone.
Vous avez l'image, là, je vois.
Il est magicien.
Bonne réponse de Bernard Mabir.
J'étais pas loin.
Vous l'avez dit, il fait disparaître des enfants.
Comme Jésus.
Eh oui, le père Alexandre Denis est magicien. Et d'ailleurs, il sera dans ce spectacle qui s'appelle Magic Whip à la Villette.
Le père Alex, magicien, le vrai nom, c'est... avec sa braguette magique.
Ouais. Le vrai nom du spectacle, c'est Tu la vois, tu la vois plus.
Il a reçu un Molière l'année dernière pour la meilleure création visuelle pour ses effets spéciaux dans Chapitre 13. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est manifestement doué pour la magie, ce qui est formidable pour un curé d'être magicien.
Oui.
Vous le connaissiez, ce magicien, Bernard ?
Non, mais je me suis dit, ça peut être ça. Il y avait bien un curé qui chantait. Comment il s'appelait, le père Duval ?
Ah oui, non.
La sœur Sourire.
Sœur Sourire.
Moi, je le connaissais parce qu'il est marié.
Mais non.
Sa femme a un double fion. On connaît tout le monde.
Bon, écoutez, je prends un papier dans La Croix.
Il a fait disparaître les catholiques.
Et j'ai une autre question trouvée cette fois. Alors, écoutez, dans West France...
Il lit pas West France, Jean-Jacques.
Mais dans les pages économiques de West France... Et ça concerne tout simplement quelque chose qui pourrait peut-être nous aider dans notre agriculture française, parce qu'il faut le savoir, pour l'instant, cette plante, il faut le dire, est surtout importée chez nous en Europe. Et c'est vrai que ce serait tellement plus simple de la faire pousser en France.
Le chanvre.
Pardon ?
Le chanvre.
Le chanvre, non.
La moutarde.
La moutarde.
Le cornichon.
Non,
la bœuf.
Ça, on en a un ici.
C'est une plante aromatique.
On en fait... Écoutez, laissez-moi finir. On en fait venir chez nous pour 700 millions, quand même, c'est énorme.
Et moi.
Pour 700 millions de dollars par an, alors qu'on pourrait en cultiver sur notre continent.
La betterave.
Et justement, on va voir au téléphone
le
dans
coton,
un instant M. Vincent Allard, qui représente une société qui va vous aider à cultiver...
Le safran.
Non.
L'EVA. C'est féminin, Laurent.
L'EVA, non.
Le
safran, ça ne se... Ah, ça se mange. Pas vous. Vous n'en mangerez pas, mais
y en... Pourquoi j'en mangerai pas, moi ? Ça fait maigrir.
Quoique vous ressemblez un peu à... Oui. Vous,
est-ce
peut-être.
Que
je ressemble
féminin.
À quoi ?
Oh, bah, vous,
à rien.
Vous comprendrez.
À une vache.
Non.
Ah, c'est la
c'est du foin, du foin.
Du foin, non.
Est-ce que c'est féminin, le mot ?
Non, c'est masculin.
On dit du...
À part une jeune femme qui portait ce nom et qu'on connaissait tous, mais autrement, c'est masculin.
Et on donne ça aux bêtes ?
Ah oui, il y a certaines bêtes qui en mangent, oui.
De l'avoine, de l'orge.
Non, non.
Du millet. Le touron.
Et pour les agriculteurs français, ça peut être...
Du picotin.
Non, une nouveauté évidemment intéressante de,
se lancer, canigou.
De se lancer dans cette culture.
Sorgho.
Une plante pérenne en plus.
Champignon.
Non, champignon, non.
Le colza.
Le colza non plus.
Mais alors on l'importe d'où ?
Le tournesol.
Cette plante. Le tournesol, non.
La poire fraide.
Ça peut quand même provoquer 30 000 euros de revenus par hectare, hein, ce qui est quand même pas mal.
Ah, c'est du énorme. Tabac, c'est, du tabac.
C'est une société...
Ah, c'est du fil à soie.
Du fil à soie, non. Non,
c'est des araignées, non.
Ça se fume.
Ça ne se fume pas.
Ah, c'est une plante.
Ça sert à faire des vêtements.
Des vêtements, peut-être des grands couturiers.
Le jute.
Pardon.
Le jute,
le caoutchouc.
La soie.
J'ai cru qu'il disait je jute.
Je trouve la question. Mais où il traîne, ce Laurent?
Ça peut servir à des grands couturiers.
Non, 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 mais j'imagine que par exemple, à une époque, comment il s'appelait celui qui voyait.
Paco Rabanne.
Paco Rabanne. Voilà. Paco Rabanne a peut-être utilisé ça.
Le pour... bambou.
Le bambou. Ah. Bonne réponse de Franck Ferrand qui tient le bambou. Bonjour monsieur Allard.
Ruquier.
Alors, d'où vous faites venir votre bambou avant de le cultiver chez nous en France?
Oui, alors en fait, la société qui propose de planter du bambou s'appelle Only Mozo, une société italienne.
Ouais. Et
donc le bambou, on le fait venir d'Italie.
Ah, c'est en du fait, bambou italien.
On a 20 hectares de pépinières en Italie, la production se fait là-bas, il y a une production de 7 millions de plants par an. Et ensuite, on propose aux agriculteurs, donc là en l'occurrence les agriculteurs français, de planter du bambou sur leur parcelle.
Mais est-ce que c'est pas une plante envahissante, le bambou? J'avais toujours entendu dire ça.
Oui.
C'est dangereux ce que vous proposez là.
C'est vrai que c'est l'origine de litiges qu'il peut y avoir avec les particuliers qui l'utilisent plutôt de façon ornementale. C'est vrai que le bambou, il a cette capacité à venir coloniser le terrain.
Il y a des espèces de bambou qui prennent un mètre par jour, c'est vrai?
Oui, tout à fait. Le record en France, il est de 64 cm.
Oh la vache.
Et donc vous préconisez de relancer le bambou chez nous plutôt que de l'importer?
Bien sûr. Et en fait, c'est un non-sens de l'importer, parce qu'il y a tout ce qui est trajet, il y a tout ce qui est émission carbone, alors qu'en fait, on sait qu'il pousse très bien par chez nous. Donc l'opportunité, ce serait justement de le faire pousser par chez nous, de nourrir le marché européen, plutôt que de le faire importer.
C'était un titre de West France aujourd'hui. Faut-il se convertir au bambou? Merci, monsieur Allard, de nous avoir donné la réponse.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Comme le dit si bien Roselyne Bachelot, ah, l'invité mystère, le truc que je trouve jamais.
C'est pour le truc.
Le sympa truc,
c'est,
pour lui.
C'est une personne, vous voyez,
oui,
qui patiente, Madame Bachelot. Et en plus, c'est un truc, je suis sûr que vous connaissez, comme nous tous ici, voilà, un invité mystère qui ne devrait pas rester mystère longtemps. Bonjour, invité mystère.
Bonjour.
Bonjour. La voix est déformée, ça va de soi, je le rappelle, c'est parti.
Bonjour.
Vous êtes un homme.
Mais oui. Très, très viril.
Je sais pas.
Ça dépend des heures.
Je sais pas non plus.
Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère?
Oui.
Combien?
Deux.
Est-ce qu'on voit votre visage sur les murs de Paris en ce moment?
Non.
C'est une excellente question que je voudrais quand même le signaler, hein, que vient de poser M. Ferrand, parce que ça, vous voyez, ça change des questions habituelles. Est-ce qu'on vous a reconnu à l'entrée? Vous êtes venu comment? Ceci et cela.
Non, mais ça va. Ça va, Laurent, ça va.
Est-ce qu'on voit votre visage?
C'est incroyable, il est envoûté par Franck Ferrand.
Ah non, mais ça c'est une belle question.
Merci.
Non, normalement, on n'a pas le droit.
Comment ça, on n'a pas le droit?
On n'a pas le droit de poser des questions qui ont peut-être en rapport avec l'actualité, parce que s'il est sur les bus ou dans le métro, on sait que...
Oui, mais c'était mal.
Oui.
Ça
détourné.
Ça
permet de se faire engueuler, toi, t'es plus.
Voilà, la différence, quoi.
On peut en poser une. Est-ce qu'on vous a reconnu à l'entrée?
Je vous laisse entre vous, je m'en vais.
C'est bien, monsieur Ferrand, c'est bien, mon petit Franck.
Merci, merci.
Vous êtes venu en voisin? Vous êtes venu en voisin?
Non.
Qu'est-ce que vous avez comme photo en fond d'écran sur votre portable?
Belle ça, c'est une très bonne question aussi. Oui. Ça change, vous voyez, monsieur Baffi.
Est-ce que
c'est
vous avez un portable efforts.
Faites bien de fréquenter de plus en plus monsieur Ferrand. Ça vous aide, vous voyez.
Vous n'avez pas répondu, invité mystère. Votre fond d'écran.
Rien, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Ah, tiens.
Vous n'aimez pas vos enfants, votre compagne, votre chien, vous n'aimez personne.
Non.
Vous êtes un sale con, je note.
Vous intéressez à l'histoire de France?
Oui, bien sûr.
Mais
bien
pas
sûr.
Plus que ça, quoi. Comme tout le monde.
On vous a déjà vu nu quelque part?
Oui.
Voici
dans votre chambre.
Un premier indice musical.
Il disait à son fils comment était le monde, comment était la vie. Puis il posait son doigt sur une map monde. Nous irons par ici. C'était des océans, la mer et le rivage, de pays merveilleux. Son fils l'écoutait.
Julien Clerc qui chante Le Père dit à son fils. Voilà un bel indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité mystère ?
Très joli.
Vous êtes chanteur ?
Non.
Vous êtes acteur ?
Oui.
Vous avez déjà obtenu un César ?
Oui.
Un seul César ?
Oui, j'ai été nommé plusieurs fois, mais j'en ai eu qu'un.
Vous faites du bateau ?
Oui.
Voici un deuxième indice musical.
Tu es pour moi le symbole vivant des amours romantiques qu'on découvre à 30 ans. Ton corps me fait vibrer, dans tes bras je m'enivre, mon cher Albert. Mon cher Albert.
Ah, mon cher Albert, chanté par Jean-Yann, voilà un bon indice. Bernard Mabie propose Thierry Lhermitte. Vous n'êtes pas Thierry Lhermitte.
Non, je ne suis pas Thierry Lhermitte.
Mais Laurent Baffy vous a d'ores et déjà, évidemment, deviné. Bravo Laurent. Franck Ferrand.
Je n'en peux plus de Laurent Baffy.
Franck Ferrand vous propose Albert Dupontel. Non, vous n'êtes pas Dupontel.
J'aimerais bien. Je l'aime beaucoup.
On vous connaît que pour le cinéma ou vous faites aussi autre chose, genre humoriste, des spectacles ?
Oui.
Stevie propose Jacques Gamblin. Vous n'êtes pas Jacques Gamblin.
Non, j'aimerais aussi, je l'aime beaucoup.
Franck Ferrand pense à Gérard Darmon. Non, vous n'êtes pas Darmon. Bah, vous l'aimez moins.
Non, mais je vais pas être ridicule, je vais pas dire que j'aime tout le monde.
C'est ça, Bernard Mabie vous a identifié. Bravo Bernard.
Ah, très bien.
Pour les autres, encore un indice. Des larmes sur Ramatuelle. Si après cet indice-là, les grosses têtes ne trouvent pas l'invité mystère, là, vraiment, alors là, c'est... je désespère, vous êtes d'accord
oui.
Même Stevie vous a identifié. Alors là, voyez quand même. Voulez-vous écouter notre invité mystère chanter ? J'avais ça comme derniers indices. Ils ne chantent pas tout seuls dans cet indice. Ils sont trois à chanter. Écoutez-les.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
Bon, si je vous dis que les deux autres, c'est Roland Giraud et André Dussolier.
Introuvable.
Alors là, écoutez, franchement, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Ah, heureusement, Franck Ferrand a rejoint le camp des vainqueurs. Jean-Jacques Perroni aussi. Quant à Roselyne Bachelot, écoutez, je crois qu'elle est restée avec la poire d'Angers. Elle est du côté de chez Fred. Bravo, monsieur Perroni. Je me tourne vers toutes les grosses têtes, sauf Roselyne. Notre invité mystère, c'est donc...
Michel Bougenat.
Michel Bougenat qui nous rejoint. Michel Bougenat était bien notre invité mystère. Il est toujours en tournée avec son spectacle « Ma vie encore plus rêvée ». Il sera, je vous le dis, là, dans quelques jours à Erstein, le 17 janvier, à Perpignan, le 24 janvier. Puis en février, Orchi, c'est près de Lille, Aix-en-Provence, ensuite. Pas tout donné, mais hier, Concarneau. Vous partez même en Guyane au mois d'avril, peut-être,
il en est question.
Monsieur Bougenat, Rochefort, en Belgique, au mois de mai. Voilà pour les quelques dates. Ce sont les dernières dates de tournée de votre...
De celui-là, oui, je suis en train d'écrire le nouveau, et puis je vais jouer... J'ai déjà joué Harpagon, mais je vais le jouer à Paris, je ne sais pas où encore, mais on va le jouer, on attend quelques jours.
À l'Avare, bientôt, avec Michel Bougenat sur scène à Paris.
C'était passionnant à faire.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, bah, j'étais bouleversé. C'est un personnage extraordinaire, vraiment.
Ça. Avec quelle troupe ? Vous avez d'autres acteurs ?
Il y a une actrice qui s'appelle Nathalie Cerda et Eric Pratt. Je les cite tous les deux parce qu'ils sont tous les deux des élèves de Michel Bouquet. Bouquet, comme vous le savez, est un grand spécialiste de Molière. C'était un bonheur de travailler avec eux, mais tous. Hein. Et on a créé ça à Antea, à Antibes, sous la direction de Daniel Benoît. Et c'était merveilleux, merveilleux de faire ça. Vraiment, je ne pensais pas être aussi heureux de jouer ce rôle.
L'Avare avec Michel Boujna, prochainement à Paris. Mais d'abord, les dernières dates de son spectacle seul en scène. Il y a toujours évidemment le festival de Ramatuel quand même. Avec Ramatuel, Roselyne, vous auriez pu trouver le nom de Monsieur Boujna.
Je ne trouve pas l'invité mystère, jamais.
C'est pas grave.
Oui.
Détendez-vous, c'est
la
pas
vérité,
grave.
La vérité, c'est qu'elle n'aime pas les Juifs.
Et pourquoi vous en avez marre de voir Laurent Baffy, comme vous l'avez dit?
Parce que je l'ai quitté hier à 1h30 du matin, j'en peux plus de lui.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ensemble à 1h30 du matin?
On raconte des blagues.
Des bêtises.
Il a des blagues formidables, Laurent.
Ah, c'est vrai?
Vraiment un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de raconteur de blagues du monde.
Vous en avez une nouvelle, Monsieur Boujna?
L'ours, par exemple.
Ah non, pas l'ours.
Ah bah si, l'ours.
Ah si, elle
est longue, hein, je vous préviens.
On a le temps jusqu'à 18h, puis Thomas Soto démarrera à 18h10.
C'est l'histoire d'un type qui part à la chasse avec son petit fusil dans la forêt. Tout d'un coup, il voit un ours. Alors, il prend son fusil. Pan, pan. Et l'ours, il tombe. Alors, il se rapproche de l'ours. À peine il est arrivé près de l'ours, l'ours se lève, prend le type, le retourne, baisse son pantalon. Excusez-moi, je ne sais pas quelle heure il est, qui écoute. Il l'encule.
Il sodomise l'ours.
Voilà.
Ah, parce que ça revient au même. Bah, oui.
Alors, évidemment, le chasseur est très vexé, parce qu'il n'est pas du tout homosexuel et très hétéro. Il n'aime pas trop ce truc-là, donc il est très énervé. Et donc, il va au magasin de fusils pour ours et il achète un super fusil pour ours et il repart dans la forêt pour se venger. Mais un peu plus énervé. Et il cherche l'ours et l'ours apparaît, il se planque derrière là, pam, pam, l'ours tombe. Il est content, il se rapproche de l'ours, il se lève la patte ne bouge pas. À ce moment-là, l'ours se relève, prend le type, le retourne, met son pantalon et l'encule.
Il le re-sodomise.
Mais combien de trous, j'ai du mal à suivre.
Là, il commence à être très très énervé. Alors, il va à la réserve de l'armée, parce qu'il y a une réserve de l'armée pas loin. Il va après un bazooka. Et là, il se planque plus. Hein. Il rentre dans la forêt. Ta, 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 ta. Il fait l'ours, l'ours. L'ours, il fait ouais, on m'a appelé. Pan, il tire, pan, il tire. L'ours tombe. Là, il est comme ça. Ah, il soulève le bras, le pied. Il lui donne une grande claque. Il dit ah, connard. À ce moment-là, l'ours se lève, prend le type, le retourne, baisse le pantalon. Et l'encul. Il est très énervé.
Il le sodomise.
Très énervé. Il retourne voir son copain qui est colonel. Il prend un tank. Il va dans la forêt avec le tank. Il voit l'ours. Il tire un obus, deux obus. Il y a un cratère de 30 mètres de profondeur. Au fond, il y a l'ours. Il prend le bras, le pied. Il met une grande claque. Il met le pied sur le ventre. Il fait pour la photo. À ce moment-là, l'ours se lève. Oh, le type, le retourne, lui baisse le pantalon, il lui fait, dis-moi, tu serais pas un peu pédé? Hey, c'est incroyable quand même.
Bah, je crois que c'est bien pour enchaîner avec les infos.
Moi, je connais l'histoire. Par cœur, évidemment, puisque je viens de vous la raconter. Eh bien, elle me fait toujours rire, moi aussi. C'est ça qui m'inquiète chez moi.
Ah ben, écoutez, on vous remercie vraiment énormément d'être venu nous raconter cette histoire.
Oui, parce que je tiens à préciser une chose quand même. Dans cette émission, j'ai tout fait. Il ne me reste plus qu'à faire le ménage. Et à servir les cafés. J'en peux plus de vous.
Non, mais on aimerait tellement que vous reveniez plus souvent nous voir, Michel. Donc, dès qu'on peut, vous glissez 10 minutes en invité mystère.
Pas vous glisser, sinon à la fin, il le regarde.
Mais en tout cas, allez voir Michel Boujna sur scène dans Sa vie encore plus rêvée sur les dernières dates en tournée à travers la France. Merci Michel d'être venu jusqu'aux Grosses Têtes. À demain 15h30 pour d'autres Grosses Têtes.
RTL Matin. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je vous donne rendez-vous chaque jour à partir de 7h pour RTL Matin. Les informations du jour, du bon sens, de la curiosité avec nos journalistes, nos éditorialistes et nos invités. RTL Matin, c'est chaque jour de 7h à 9h30.